Bonjour et bienvenue dans la communauté dédiée au Quality Engineering. Lors de notre table ronde dédiée au sujet de la QOQE par où démarrer, nous avons abordé comment définir une stratégie de test en transverse et dans la collaboration. Au travers de nos échanges, nous avons identifié les points clés et les pratiques actionnables pour votre contexte. Le résumé de ce contenu est disponible en podcast, en vidéo, avec un article sur le blog. Une bonne écoute, souscrivez pour les prochains épisodes.
Tout à l'heure, on parlait de l'example mapping pour insuffler plus de collaboration autour de la définition des tests. Et j'avais envie de soulever le sujet pour aller plus loin sur la partie stratégie de test. Est-ce que vous connaissez de votre côté des ateliers collaboratifs ludifiés, hein, de la gamification, qui permet en fait de définir une stratégie de test en faisant intervenir une équipe au complet, de sorte que la stratégie de test ne sera pas simplement définie par une seule personne, un testeur, mais permettra de l'impliquer, d'engager plus de profils, notamment développeurs, producteurs, architectes, moi, je connais un atelier que je peux partager avec vous, mais si vous en avez de votre côté, je suis vraiment preneur de ce genre de choses.
C'est intéressant parce que actuellement, comment je fais, c'est juste un PPT que je présente en se basant sur les features sur lesquelles on va travailler. Et j'invite à la réunion le PO et le PM en charge. La vérité, j'invite pas les devs et les architectes, mais j'essaie de présenter en général la stratégie de test, parce que comment nous on procède, c'est dans une PI, en fait, à la fin de chaque sprint, on essaie d'exécuter des cas tests et à la fin du PI, on fait une phase d'acceptance pour faire la non-règle de tout ce qui a été testé. Et avant, en fait, j'essaie de, en se basant sur ce qu'on a trouvé dans chaque fin de sprint avant système de mots, et analyser, et en se basant sur ça, je fais ma stratégie et je la partage avec le PM et le PO, et on essaie d'identifier les risques et les zones où on doit faire attention. Mais c'est juste un PPT que je prépare, j'ai pas une template ou... À chaque fois, ça dépend des features qui ont été livrées et ce qu'on a fait.
Non, je pense que ça peut être intéressant de partager, parce que moi, personnellement, je pense que tout ce qui est les pyramides de test, etc., c'est intéressant, mais je trouve qu'en fait, ça ne prend pas en compte le contexte, en fait. Qu'est-ce qu'on veut résoudre d'un point de vue business, qu'est-ce qui est important pour l'appli, etc. C'est ouais, faire de l'agile, bah, vous commencez par le bas. Moi, je trouve c'est intéressant comme modèle de réflexion et dire, OK, ouais, si on veut du truc près. Mais pour moi, il y a plein de choses challengeables dans les pyramides de tests existantes. Déjà, sur les hypothèses que ça a, genre, les tests front sont forcément longs. Moi, j'en ai déjà vu des très rapides, personnellement, à l'échelle. Enfin, voilà. Donc, moi, je suis intéressé, Xavier, que tu partages ça, ouais, parce que je trouve ça intéressant. Ouais, autant sur le rendu final que sur le processus qui est, du coup, est collaboratif, c'est vachement bien.
Donc, dans le chat, je vous ai partagé un lien, comme ça, vous pouvez directement cliquer dessus. Et pendant ce soir, je vais vous en parler. Donc, il y a un jeu de cartes. Donc un jeu de cartes, forcément, ça permet de ludifier une activité et de la ludifier pour qu'elle soit collaborative en faisant intervenir tout le monde autour de la table. Je ne sais pas si vous connaissez Moving Motivators dans Management 3.0 des Organapello. Donc là c'est aussi un jeu de cartes, hein. C'est des tuiles qu'on imprime et on les range en fonction de ses priorités et donc en fait là on a des tuiles également, sauf que le thème c'est pas les motivateurs intrinsèques des personnalités, c'est des grands sujets qui reviennent tout le temps en fait dès qu'on parle de stratégie de test et il s'agit en fait d'échanger sur la perception qu'a chaque personne autour de ces sujets. Mmh. Et puis de voir aussi là où on veut mettre l'accent, là où on veut mettre le plus d'efforts. Et donc ça engage les gens à revoir, enfin, à travailler leurs priorités et à aller vers un consensus. Donc ce jeu de cartes, j'ai déjà utilisé avec succès. C'est vrai que aujourd'hui, il y a des documents formels trouvés avec plus ou moins de bonheur pour les stratégies de test, mais ça peut être extrêmement chronophage de réussir à compléter ces documents à plusieurs. Et un tel jeu de cartes, en fait, permet d'arriver à un résultat probant avec dans un temps beaucoup plus limité.
Mmh. C'est une bonne idée pour inclure tout le monde dans la discussion, parce que, parce qu'effectivement, pour moi, c'est important ce que tu disais aussi, Antoine, c'est que ce ne soit pas juste un testeur qui, dans son coin, fasse son truc tout seul. Au contraire, doivent être impliqués, il faut qu'ils participent à l'élaboration de la stratégie, forcément.
Et du coup, l'idée, c'est de les prioriser, ces cartes, ou de les prendre une après les autres et de discuter de la thématique qu'elles représentent.
Ouais, alors déjà, il faut bien définir en quoi consiste chaque carte. Alors, il y a un petit texte explicatif en blanc sous le chaque tuile colorée, qui fait partie de la tuile. Et puis... on peut éventuellement rajouter des tuiles en fonction de son contexte. Donc c'est ça qui est bien aussi avec les jeux de cartes, c'est que si on veut rajouter des cartes, c'est facile, hein. Un bout de papier.
J'ai vu qu'il y en avait ici, ouais,
c'est ça. Ouais, d'ailleurs, c'est prévu. Et puis ensuite, on range les tuiles de gauche à droite pour que à droite il est plus important, à gauche le moins important. Et chacun fait avec son exemplaire du jeu de tuiles sa ligne de priorité. Et
on compare.
Et ensuite, on va pouvoir comparer effectivement dans la même équipe les convergences, les divergences de chacun par rapport à cette façon de prioriser les sujets. Et à un moment donné, l'idée, c'est d'arriver à une seule ligne qui sera la ligne de conduite de l'équipe finalement. La manière de prioriser les sujets. Et puis, une fois qu'on connaît les sujets les plus prioritaires, forcément, ce sont les sujets sur lesquels on veut mettre le plus d'efforts. C'est intéressant que l'équipe se penche sur ce qu'elle veut vraiment faire sur ces sujets les plus importants. Donc, les deux ou les trois premiers, ça sert à rien d'aller au-delà, à mon avis, dans un premier temps, en tout cas. Voilà comment on peut procéder sur ce type de meeting. Alors ça, c'était un jeu de cartes que j'avais découvert dans un meet-up.
Oh, c'est intéressant.
Il était présenté par son créateur, qui est Florent Zidox.
Mm-hmm.
Je sais pas ce qu'il est devenu, ce jeu de cartes, depuis sa création, s'il a beaucoup été utilisé. Moi, je l'ai expérimenté sur le terrain et j'ai pu obtenir des résultats satisfaisants avec. Je l'ai même un petit peu amélioré et lié avec un fichier Excel pour récupérer les informations utiles pour la suite de manière à cadrer une stratégie de test.
Non, c'est vachement intéressant parce que c'est.
Je sais pas s'il y avait des choses comme ça de votre côté qu'on peut utiliser pour une stratégie de test, un plan de test, une politique de test, toutes ces choses-là. Mmh. Pour essayer d'amener de la collaboration et puis de la ludification aussi, parce que ces activités, souvent, quand elles sont gérées de manière traditionnelle, elles sont rébarbatives. Et quand c'est rébarbatif, on a envie de passer à autre chose, on ne va pas au bout des sujets ou alors. On n'a pas envie d'y revenir parce que ça a été douloureux de se pencher là-dessus. Quand on ludifie les choses, c'est beaucoup plus agréable, on y consacre moins de temps, l'expérience est meilleure, c'est plus facile d'y revenir pour itérer. Voilà, donc la question est ouverte. Est-ce que vous avez des choses un peu de ce type-là pour les stratégies, pour les politiques, les plans de test, etc.
Alors moi, non, on en fait sur les sujets d'architecture, etc., mais sur la partie test, non, et on devrait, en fait, clairement.
Tu as quoi, toi, sur l'architecture? Ça m'intéresse aussi.
Bon, on bosse pas mal sur des formats de, alors pas forcément ce type de template-là, mais sur des, ça pourrait être Klaxoon ou autre chose, hein, mais globalement sur ces modèles collaboratifs, et du coup, forcément, le fond de carte est adapté en fonction des sujets. Et par exemple, bah là, on est en train de terminer un exercice de schéma directeur là, pour se repositionner à 3 ans, target, trajectoire, etc. Et en fait, sur chacun des ateliers, il y a ce type de schéma qui est co-construit, etc., et qui anime et qui guide la réflexion. Et en fait, comme c'est des ateliers où on est effectivement à chaque fois, on est souvent les 6 à 10, 12 personnes, enfin, pour les plus grands ateliers, ça permet quand même de, effectivement, un peu sur le même output que ce que tu disais sur les pyramides, en fait, on arrive à croiser des perspectives, les gens ont le sentiment de participer, c'est collaboratif, c'est marrant, tu mets des post-it, tu les bouges, etc. Enfin, donc les gens sont quand même un peu plus moteurs que si c'était un mode présentation et avez-vous des questions, quoi. Et ça permet, en fait, de. Par la suite, c'est quand même vachement utile parce que les gens fixent beaucoup plus l'image qui en reste de l'atelier, même si au final, quand il va avec du recul, tu dis, voilà, c'est quoi ce nuage de post-it, etc. Mais après, on fait toujours un effort de synthèse et de, on va dire, de design du rendu. Mais ça aide pas mal, en fait, à orienter des discussions et des, enfin, comment on dit, les mental models, quoi, parce que par exemple, si on veut orienter la discussion sur, ça pourrait être ça, pareil sur les pyramides de test, hein, mais si, par exemple, sur certains sujets, on veut amener les gens à penser de manière plus découplée les choses. Ben voilà, on peut déjà leur préparer le fond de carte avec des choses par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, demain, et qu'ils réfléchissent, OK, ben est-ce que j'ai aujourd'hui ou est-ce que je le mets demain? Comment est-ce que je le range? Comment est-ce que je fais interagir les briques? Donc ça, moi, je trouve. Enfin, nous, on a trouvé que c'était vachement intéressant. Et honnêtement, ça a quand même fait vachement la différence sur, en plus, une période où on a dû faire cet exercice en mode Covid, full remote quasiment. Là où avant c'était effectivement plus des choses en mode post-it. Donc du coup, c'est même d'ailleurs, je pense, mieux en fait sur le format digital, parce que ça a l'avantage d'avoir le fond de carte, etc., versus du papier où ça peut vite être un peu plus le bazar quand même à organiser, quoi.
Et dis-moi, Antoine, dans ce fond de carte, est-ce qu'il y a des diagrammes qui reviennent toujours? Là, par exemple, pour notre atelier d'aujourd'hui, on a utilisé la matrice difficulté-importance. Est-ce que tu as des choses comme ça, que tu utilises dans ton fond de carte, qui soient numériques, reconnaissables?
Ouais, il y en a certains où on utilise pas mal la partie des clusters d'idées, là où tu mets au début les problématiques et après tu clusterises autour l'arbre d'idées. Donc ça, on a pas mal. On a pas mal aussi celui-là, là, ici. Tac. Donc, je dézoome un peu là, mais je ne sais plus comment ça s'appelle ça, le design thinking, là. Où on met pas mal les catégories et puis la partie importance au milieu, etc. Donc ça, on l'a pas mal pour faire émerger les sujets. Et après, on en a quand même certains qui sont un peu plus, en fait, pas mal, alors j'allais dire ad hoc, mais pas si ad hoc que ça. En fait, le fond de carte est souvent l'operating model de l'entreprise avec les grandes fonctions, et ça pourrait être des fonctions de, ça pourrait être la chaîne de déploiement de CI/CD qu'on parlait, hein. Et en fait, là, les gens doivent, par exemple, aller mettre, les plus, les moins, par exemple, quels sont les pain points, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et voilà. Et après, à la fin, on arrive du coup à avoir à la fois une vision, on arrive à avoir un SWOT, mais qui est calqué sur le process. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'on arrive à assez rapidement se dire où ça marche, où ça marche pas. Et du coup, traiter les problématiques au bon endroit. Voilà. Alors que si on fait un peu un exercice SWOT, un peu, on va dire, basique, bah, c'est pas vraiment localisé, en fait. On dit, ouais, bah, ça marche, ça marche pas. Alors après, où est le problème? On va essayer de faire un arbre de root cause, machin, là, un peu l'ingénierie à l'ancienne, on comprend plus grand chose à la fin à l'arbre. Mais moi, je trouve ça intéressant sur ces formats visuels, en fait. Je trouve que si on est un peu, on revient à la discussion qu'on avait, si on est clair sur qu'est-ce qu'on veut faire travailler les gens avant et qu'on cadre un bon fond de travail, je trouve que c'est vachement efficace là-dessus.
Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai qu'avant, tu parlais de l'aspect gamification pour atténuer parfois l'effet chronophage de certaines de ces sessions. Un autre moyen aussi, ou deux autres moyens, c'est de les raccourcir, ces sessions, de les diviser. C'est que chez nous, les exemples mapping, notamment, on essaie de ne pas y passer plus d'une demi-heure parce que rapidement, tu perds la concentration sur ces sujets-là. Et même si on n'a pas fini, on le fait, parfois on le fait en deux jours parce qu'on n'a pas eu le temps de balayer toutes les règles et que de toute façon, c'est pas, on anticipe un peu, on ne va pas commencer à le développer dans le jour qui suit. Donc ça peut aider aussi. Et puis aussi le fait que la parole tourne, quoi, que ce ne soit pas juste je sais pas, le PO, une autre personne qui fait la discussion, qui fait les exemples, mais que les autres personnes prennent en main la discussion. Par exemple, un développeur va prendre une règle et en discute autour, c'est lui qui va créer les post-it sur ces outils-là. Voilà, que chacun contribue et ne soit pas juste là en spectateur, parce que c'est ce qui peut arriver dans ces séances de collaboration, c'est qu'il y a une ou deux personnes qui monopolisent 90% de la parole et les autres finissent par suivre, et c'est pour eux finalement que ça devient le plus dur d'être attentif, parce qu'à un moment donné, ça devient trop long et tu ne te sens pas engagé. Donc la gamification peut aider, mais il y a aussi d'autres moyens pour éviter de se retrouver dans ces situations.
Ça fait
en plus, avec le remote, le Covid, c'est vite fait d'avoir un deuxième écran à côté, de passer sur autre chose, quoi. De toujours être dans la même position sur ta chaise. Aujourd'hui, que tu sois en réunion, ou que tu codes, ou que tu fasses autre chose, tu es toujours dans le même contexte. Tu ne changes pas de salle pour aller dans une réunion pour faire une séance d'analyse de risque ou je ne sais pas quoi. Là, c'est toujours le même. En gros, tu as la même gueule, quelle que soit l'activité que tu fais. Tu es dans la même position, donc ça, c'est pas évident aussi. Donc, parfois, il faut encourager un peu à bouger, à essayer de se trouver dans des... Peut-être prends ton ordi, va sur une table à côté si tu peux. Bon, enfin, la situation Covid n'aide pas, quoi.
Ah, clairement, pour garder l'attention des gens, il faut timeboxer l'approche et puis le Pomodoro, là, les 30 minutes maxi par thème, et puis... quitte à avoir 5 minutes entre deux pour parler, faire un peu le débrief, mais après être bien focalisé. Ouais.
Tout à l'heure, Antoine, tu disais qu'en contexte agile, c'était difficile de s'approprier la pyramide, de la décliner en fonction du contexte.
Ce que je disais, c'est que plutôt les pyramides, pour moi, peuvent manquer le contexte, en fait. Tu sais, quand on dit... faut faire la pyramide agile, voilà. Vous faites un projet agile, faut faire la pyramide agile. Moi, je trouve le raccourci un peu trop raccourci. Je pense qu'il y a des projets agiles où il faut justement pas faire la pyramide agile avec plein de tests unitaires et peu de tests en haut. Et moi, c'était plus ça que je disais, en fait. Et du coup, pour moi, ça rejoint un peu d'un des post-it que j'avais mis. C'était, je pense que c'est clé, là, si on se dit, quelqu'un qui veut avancer une entreprise dans la quality engineering, c'est, pour moi, avoir une approche... itérative et incrémentale, c'est hyper clé, quoi. Parce que si on se dit, dans ce que je vais me lancer, là, ça peut être l'automation end-to-end, mon architecture CI/CD, mes tests automatiques, si on se dit ça marche que dans 6 mois, peut-être, pour moi, c'est voué à l'échec, ce genre d'approche, en tout cas, à très forte probabilité, voilà. C'est rarement les extrêmes. Et c'est pour ça que moi, je suis effectivement plus sur... timeboxer l'approche des sprints, ça peut être 2-3 semaines à définir, mais surtout forcer à se dire, et on revient aux critères de succès de la transition, en fait, c'est dans les 3 prochains mois, c'est quoi nos critères de succès, et peut-être qu'au début c'est pas des choses extraordinaires, mais malheureusement faut aussi avoir la vision de où on part en maturité, vers où on veut aller, et souvent on démarre pas tout en haut, hein, c'est normal. Et du coup, moi, c'est un peu ça que je disais, je pense qu'il faut bien partir avec le end in mind, quoi. C'est, par exemple, pour partager, il faut faire l'exercice de collaboratif autour de la pyramide de test et tout. Après, par contre, pour moi, c'est hyper important que l'équipe arrive à se dire, OK, mais là, dans les 2 prochaines semaines, dans tout ce que j'ai mis dans ma pyramide, etc., ou dans mes objectifs d'automatisation, qu'est-ce que je livre, quoi ? Parce que je pense qu'on a vite tendance à faire des dessins un peu bien de « as is to be ». Mais après, entre deux, qu'est-ce que je livre qui marche et qui fonctionne, c'est déjà plus compliqué. Donc, c'était plus ça que mon point, en fait.
Sinon, il y a un modèle alternatif qui est bien,
Is cheese, non, c'est pas ça. Non,
c'est le cadran. Parle pas.
Ah oui, c'est le cadran, ouais. Ouais, ouais.
Le cadran, en fait, bah, l'idée, c'est d'arriver à construire la qualité du produit en tournant dans le cadran, de façon Q1, Q2, Q3, Q4, en rebouclant, pour s'assurer, en fait, qu'on a couvert tous les sujets. Et puis, en même temps, itération en itération, essayer d'élargir l'utilisation de chaque cadran avec des formes de tests plus variées.
Mmh.
Okay. Qu'est-ce que c'est le... Ah, okay.
Alors, tu cliques sur le lien que je viens de mettre dans le chat et tu vas tomber dessus. Enfin, ça, c'est mon interprétation des cadrans. C'est ma réappropriation des cadrans. Ah, il y a eu plusieurs versions. Comme pour la pyramide des tests, du reste, depuis qu'elle a été créée, il y a eu plusieurs versions. La dernière,
ouais,
qui est partagée, connue du plus grand nombre, c'est celle de l'ISTQ. Et c'est pareil pour les cadrans des tests. Donc, il y a Brian Marie, qui a mis à Crispin, qui ont travaillé dessus. Et moi, j'ai publié cette version-là.
Oui, c'est intéressant.
Donc, le texte n'est pas le même. Les formes de tests sont des formes de tests concrètes qu'on peut implémenter. Il y a une homogénéité par rapport au fait qu'on peut réellement les implémenter. C'est pas des choses diverses et variées. C'est pas comme si on mélangeait les torchons, les carottes et les patates. C'est des choses qu'on peut effectivement exécuter, qui vont des tests qui vont renvoyer des statuts, échec ou succès. Et en plus, contrairement aux versions précédentes des cadrans des tests, il y a des vrais tests agiles, puisqu'il y a la DOD et la DOR. Et je donne un nom différent pour la DOD et la DOR quand il s'agit d'incrément. J'appelle ça une DOR et une DOD, j'appelle ça une DOG et une DOS pour definition of goal, pour un incrément, et definition of success, toujours pour un incrément.
Et du coup, en fait, ça, c'est des phases, le Q1, Q2, en fait, ça
oriente,
non?
Non, c'est pas des phases. Non, du tout. C'est, en fait, les cadrans, c'est deux axes de complémentarité avec une dualité à chaque extrémité. Et donc, ces deux dualités font que on devrait, si les formes de test les différentes cadrans sont représentés, on devrait construire un produit complet d'un point de vue qualité. C'est-à-dire avoir un produit qui soit conforme aux attentes, un produit qui soit durable, qu'on pourra continuer à modifier et à livrer. On aura un produit qui sera pertinent pour ses utilisateurs et donc le bon produit. Et on aura bien construit le produit, donc un produit maintenable. Quand je disais un produit pérenne, c'était un produit qui ait du sens sur son marché. Et avoir le bon produit, un produit bien construit, c'est un produit maintenable, bien testé, évolutif. Voilà, donc, si on a ces quatre extrémités qui sont bien implémentées, ça veut dire qu'on a différentes formes de tests qui sont représentées dans chaque cadran, en plus ou moins grand nombre. Et en fait, bah, l'idée, c'est de commencer petit, en ayant au moins une forme de test dans chaque cadran. Et puis, petit à petit, à mesure qu'on itère, de sprint en sprint, ou peu importe, on vient compléter chaque cadran avec des formes de tests qu'on n'avait pas précédemment, compléter le tableau et éviter d'avoir des trous dans la raquette au moment des livraisons. Mais c'est pas des phases, hein, c'est vraiment une vue macro de ce que peut être la qualité, une représentation de la qualité. Et en se disant que bah, si un cadran n'est pas représenté, forcément, il y a des aspects de la qualité qui n'ont pas été traités.
Ils sont négligés. Ouais, c'est intéressant, ça, parce qu'il y a un message qui a, c'est un équilibre souvent de plusieurs perspectives qu'il faut avoir et on ne peut pas être dans un extrême, en fait. Ouais, c'est pas mal. Ok.
Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus axé sur l'agilité. Il y a un côté beaucoup plus opérationnel.
Mm-hmm.
Si j'ai pas à faire passer que des idées avec, comme, avec la pyramide, là, qui est très intéressant. Mais là, c'est, je trouve que c'est plus opérationnel les cadrans de test.
Ouais, et puis du coup, si tu as fait. Effectivement, je trouve ça intéressant parce que tu as la big picture, en fait, et tu peux le mettre à jour et garder la vue d'ensemble. Et après, si tu fais l'exercice, par exemple, tu peux faire tous les 3 mois, par exemple, l'exercice de pyramide collaborative qu'on échangeait, par exemple, avec aussi voilà, la collaboration autour de l'architecture d'automation, CI/CD et tout. Et je pense que ça peut permettre d'effectivement se remettre, dire comment est-ce qu'on avance sur notre macro goal qui est celui-là, en fait. Puis du coup, effectivement, si tu as un produit où. Par exemple, sur en haut à gauche, c'est plus important le test de portabilité que les pixel monitoring. Bon, bah, très bien, on fait portabilité. Il n'y a pas d'enjeu tout de suite à faire l'autre. En tout cas, c'est moins important. Mmh. Mais au moins, tu sais que tu avances là et tu peux aussi équilibrer de l'autre côté. C'est vachement bien. Mmh. Mmh.